Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un fabuleux album avec 461 Ocean Boulevard, deuxième album solo d'Eric Clapton. Il va marquer son retour en studio après s'être rétabli d'une dépendance à l'héroïne qui a duré 3 ans. L'album est sorti à la fin de juillet 1974 par le label Aerosol Records. L'album a grimpé haut dans plusieurs charts internationaux et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui a eu le don de rassurer Eric Clapton après la déconvenue du précédent album. Le titre de l'album fait référence à l'adresse sur l'Ocean Boulevard à Golden Beach, en Floride, où Eric Clapton a vécu pendant l'enregistrement de l'album. L'adresse de la maison a été changée après la sortie de l'album en raison de l'affluence de fans vers la propriété. Depuis, heureusement, la maison a été reconstruite et maintenant on peut retrouver cette adresse sur la... Après avoir surmonté sa dépendance à l'héroïne, Eric Clapton s'est rendu compte qu'il avait perdu, au fond, 3 ans de sa vie, affirmant qu'il n'avait rien fait d'autre que de regarder la télévision et de rester discret. Lorsque Clapton a commencé à vouloir sortir de sa léthargie, il a commencé à écouter beaucoup de nouvelles musiques et de vieux disques de blues, et il a recommencé surtout à jouer. Il a même composé des chansons entières à partir d'idées toutes simples. Carl Radle, l'ancien bassiste de Derek and the Dominos, a donné à Eric Clapton une cassette démo comprenant des chansons interprétées par lui, Carl Radle, avec le claviériste Dick Sims et le batteur Jamie Oldacre. Clapton a aimé les démos, les qualifiant de simplement superbes. Clapton a également invité les chanteuses Yvonne Elliman et Marcy Levy, ou Marcy Letrois, c'est selon que son nom évolue, ainsi que le guitariste George Terry en tant que membre à temps plein de son groupe pour cet album. L'équipe est ainsi prête à travailler. Et dans le même temps, Robert Stigwood réserve les studios Criteria à Miami, en Floride, avec comme producteur Tom Dowd, rien que ça. Le premier titre de l'album, Motherless Children, est une chanson traditionnelle créée par Blind Willie Johnson en 1927, puis interprétée notamment par Blind Willie McTell, ainsi que Bob Dylan, Steve Miller et tant d'autres. 4 ans plus tôt, lors de la tournée américaine de Derek and Dominos en 1970, Clapton l'avait joué sur scène. Cette version live de 1970 est bien sûr différente de la version studio paru sur le 461 Ocean Boulevard. Mais il ne fait aucun doute que l'intérêt de Clapton pour la chanson date de cette époque. Arrangé par Carl Radle, ex-bassiste de Clapton et des Dominos, c'est un titre idéal pour lancer l'album. Le thème de la chanson est autobiographique, car la mère de Blind Willie Johnson est morte quand il était jeune. Son père s'est alors remarié, peu de temps après sa mort. Et quelque temps après encore, sa belle-mère l'aurait aveuglé avec de la lessive après que son père l'ait trouvé en flagrant délit d'adultère. Blind Willie Johnson, qui est né vers 1897-1898, c'est pas très clair, et qui est décédé en 1945, était un chanteur et un guitariste de blues, de gospel, de confession évangéliste. Ses enregistrements historiques ont été réalisés entre 1927 et 1930, soit une trentaine de chansons au total, alliant une puissante voix thoracique, des compétences de guitariste de slide et une originalité qui a influencé nombre de générations futures de musiciens. Bien que les disques de Johnson se soient bien vendus, on connaît peu de choses sur lui, sinon que c'était un chanteur de rue, très pauvre malgré son succès. Il fut marié néanmoins et eut même une petite fille. La version d'Eric Clapton sur The Marcellus Children est pour moi l'exemple parfait de la modernité donnée par des musiciens des années 60 et 70 qui étaient en recherche permanente de nouveaux sons et de nouveaux arrangements rendus possibles par des techniques de jeu et d'enregistrement toujours plus performants. Ce titre sortira en single en face B de l'hypertube de cet album, mais on y reviendra. C'était Motherless Children, les enfants sans mère, d'Eric Clapton, sur OxyWeb Radio. Avec cet album, il est incontestable que la volonté d'Eric Clapton est d'en revenir au blues. Mais comme toujours, il veut plus et l'écoute des musiques nouvelles de l'époque va l'y aider. En décidant de revenir en studio, il a composé des chansons qui témoignent de son retour aux sources. C'est le cas de Better Make It Through Today, qui va arriver en suivant, qui est un blues lent qui se termine par ce que je considère comme un joli solo de guitare. Dans cet album, Eric Clapton ne part plus dans de longs chorus comme à l'époque de The Rank and the Dominoes, avec ou sans Duane Allman, pour l'album Layla and Assorted Love Songs. L'écoute de musique récente lui a fait comprendre que l'époque des Guitar Heroes, flamboyants et ultra bavards, est révolue. Place aux jeux subtils, limités, mais sensibles. Place aussi aux autres musiciens et à leurs instruments. Ici, l'orgue, la basse tiennent une place presque inhabituelle, tellement jusque-là, les accompagnateurs de Clapton, s'ils étaient déjà très subtils, restaient relativement discrets. Qu'en pensez-vous avec cette chanson que j'aime beaucoup, Better Make It Through Today, qu'on peut traduire par « Ce serait mieux de le faire dans la journée ».
Have had my share of troubles, it's nothing new to me, when I look around me, all I see what the people say. And if we can make it through tomorrow, better make it through today.
C'était Better Make It Through Today par Eric Clapton pour OxyWeb Radio. Le deuxième titre paru en single est Willie and the Enjive, sorti en single donc en octobre 1914. Willie and the Enjive prend une direction complètement différente avec une influence toute nouvelle pour Clapton qui s'appelle le reggae. Enregistrée à l'origine en 1958 par Johnny Otis, cette chanson est la première de trois chansons basées sur le reggae qui donneront une nouvelle direction à la carrière de Clapton et influenceront davantage encore son album suivant, There One in Every Crowd, enregistré lui carrément en Jamaïque. Willie and the Enjive est une chanson écrite par Johnny Otis et sortie à l'origine en single en 1958 par le même Johnny Otis. Elle eut beaucoup de succès grâce à son rythme typique de Bo Diddley, qu'on a pu ressentir dans le jingle, et elle a été partiellement inspirée par la musique chantée par une chaîne de prisonniers que Johnny Otis a entendue pendant qu'il était en tournée. Les paroles parlent d'un homme qui est devenu célèbre en créant une danse avec ses mains. Mais la chanson a été accusée de glorifier la masturbation, ce qu'Otis a toujours nié. Depuis, elle a été reprise par de nombreux artistes, notamment Cliff Richard, Kim Carnes, George Thorogood et les Grateful Dead. Clapton a ralenti le tempo pour sa version. L'auteur, Chris Welch, estime que la chanson bénéficie ainsi de cette combustion lente. Cependant, le critique de Rolling Stone, Ken Emerson, se plaint que la chanson résonne d'une tristesse déconcertante. D'autres critiques ont fait l'éloge de la voix confiante de Clapton, ce qui est assez nouveau. Et l'auteur, Mark Roberti, a affirmé, lui, que sur cette chanson, la voix de Clapton avait clairement mûri, avec des fluctuations et des intonations plus convaincantes que timides, comme c'était le cas par le passé.
Last fall.
C'était Willie and the Endive par Eric Clapton pour OxyWeb Radio. Vous avez probablement reconnu la version de Bob Marley de I Shot the Sheriff paru en 1973. Même avec le recul, on peut se demander ce que ça vient faire là. En fait, pendant que le groupe a enregistré l'album, George Terry, le guitariste, rapporta l'album Burning de Bob Marley et des Wailers à Eric Clapton, déclarant qu'il aimait beaucoup la chanson I Shot the Sheriff. Il persuada que Clapton d'enregistrer une version. Cette chanson a déplu à Clapton en raison de sa mélodie hardcore reggae, pure reggae si vous préférez. Finalement, le groupe a convaincu Clapton de mettre la chanson sur l'album, notant qu'elle deviendrait rapidement un single à succès. Et quand Clapton a rencontré Bob Marley quelques années plus tard, Bob Marley lui a confié qu'il aimait beaucoup sa version. Ainsi, premier single tiré de l'album, I Shot the Sheriff a été publié par RSO Records au début juillet 1974, avant la sortie de l'album. Ce qui a d'ailleurs annoncé la venue prochaine de ce fameux nouveau disque. La version originale d'Eric Clapton sur cette mélodie de Bob Marley était véritablement supérieure à celle de la version originale. En effet, elle a atteint le top 10 des charts uniques dans 9 pays, devenant ainsi le seul hit numéro 1 au Billboard Hot 100 pour Eric Clapton. En 2003, la version de Clapton a été intronisée au Grammy Hall of Fame. Le single a également été le premier single d'Eric Clapton à bien se vendre au niveau international, recevant plusieurs disques d'or aux États-Unis ainsi que 2 disques de platine au Canada. L'histoire est racontée du point de vue d'un narrateur qui reconnaît avoir tué le shérif local, corrompu et prétendument faussement accusé d'avoir tué seulement le shérif adjoint. Le narrateur affirme également avoir agi en légitime défense lorsque le shérif a tenté de lui tirer dessus. Bref, c'est l'histoire de cette volonté de dénigrer la réalité et la valeur des faits attribués aux minorités noires.
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I said,
C'était I Shot the Sheriff par Eric Clapton pour OxyWeb Radio. Oh yeah. Après le reggae, Clapton en revient au blues avec la reprise d'Elmer James composée par Willie Dixon. I Can't Hold Out, je peux pas tenir. En ce qui concerne les reprises de blues, celle-ci est absolument exquise à de nombreux niveaux. Du riff de guitare d'ouverture aux magnifiques touches en arrière-plan, la voix de Clapton est également forte et ajoute à l'ambiance générale de la chanson. A noter la basse de Carl Riddle, qui fut l'un des plus grands bassistes de tous les temps, de mon point de vue, sans l'ombre d'un doute. J'en profite donc pour lui rendre un hommage appuyé. En effet, Carl Dean Riddle est né à Tulsa, dans l'Oklahoma, en juin 1942. C'était un bassiste qui a tourné et enregistré avec beaucoup d'artistes parmi les plus influents de la fin des années 60 et des années 70. Il a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée de la musique de l'Oklahoma en 2006. Au départ, musicien du groupe de Léon Russell, Carl Riddle a joué avec Eric Clapton dès 1969 avec le groupe Delaney and Bonnie and Friends et il l'a rejoint quand celui-ci a formé The Wreck and the Dominoes. En 1970, Carl Riddle a rejoint ensuite Joe Cocker avec ses Mad Dogs et The Englishmen en tournée. Il a travaillé également sur tous les albums de Clapton de 1970 à 1979 et a fait ses tournées de 1974 à 1979. Carl Riddle a eu un rôle déterminant dans le retour de Clapton, on l'a un petit peu évoqué en introduction. Durant son interruption de 3 ans, Carl Riddle envoyait régulièrement des cassettes de musiciens avec qui il travaillait. Carl Riddle fut aussi un musicien de session pour nombre des artistes de blues et de rock parmi les plus célèbres des années 70. Je veux citer Rita Coolidge et Kris Kristofferson, Dave Mason, J.J. Cale, George Harrison et Buddy Guy, entre autres. Durant sa carrière, Carl Riddle suscita le respect de nombreux musiciens. Ses lignes de basse étaient souvent simples et répétitives, mais toujours parfaites pour soutenir la chanson. Carl Riddle est décédé en mai 80 d'une infection au rein, exacerbée par les effets de l'alcool et des stupéfiants. Il avait seulement 37 ans. Mais aussi, I Can't Hold Out, également connu sous le nom de Talk to Me Baby, on ressent alors le nouveau jeu de Eric Clapton, bien soutenu par son ami Carl Riddle.
Stop what you're doing, baby, come on home. But I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. You said, baby, don't you worry, you're my heart's desire. You know that I love you, I can't stand to see you cry. But I can't hold out, can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. She said, baby, you can run, you can walk or fly. You know that I love you, you're my heart's desire. And I can't hold out, I can't hold out too long. I get a real good feeling talking to you on the phone. Oh yeah.
I get a real good feeling talking to you on the phone.
C'était I Can't Hold Out par Eric Clapton pour OxyWeb Radio. Cette fois encore, je n'ai pas pu mettre toutes les chansons de l'album dans l'émission. Ainsi, je n'ai pas pu mettre un hommage qui était rendu à Duane Ellman avec une reprise de Please Be With Me de Scott Boyer. Et donc je passe à Let It Grow, qui a été un autre titre original d'Eric Clapton. La chanson est construite autour d'une magnifique progression d'accords à la guitare. Clapton et Yvonne Elliman assurent des chants fabuleux, je les considère comme tels, en particulier pendant les chœurs. La section solo étendue qui termine la chanson est l'un des points forts qui s'estompe magnifiquement. Je voudrais parler des deux choristes féminines qui chantent sur l'album et qui ont longtemps joué avec Eric Clapton en tournée. La première, c'est Yvonne Marianne Elliman, née en décembre 1951. C'est une chanteuse, mais aussi une auteure-compositrice et actrice qui a joué pendant 4 ans dans le premier casting de Jésus-Christ Superstar aux États-Unis. Elle a enregistré plusieurs hits dans les années 70 et a obtenu un hit américain avec If I Can't Have You. La chanson était également numéro 9 dans les charts US des chansons contemporaines. Sa reprise de Hello Stranger de Barbara Lewis a été classée numéro 1 du même chart et Love Me fut numéro 5. Bref, 3 hits en peu de temps. Après une longue pause dans les années 80-90, au cours de laquelle elle s'est consacrée à sa famille, elle a fait un nouvel album en 2004 en tant qu'auteur, compositrice, interprète, et comme toujours, c'était intéressant. L'autre choriste, c'est Marcella Detroit, plutôt née Marcella Levy, et bien connue sous le nom de Marcy Levy. Elle est née, elle, en juin 1952. C'est une soprano. Elle est guitariste et compositrice américaine. Elle a coécrit, par exemple, avec Eric Clapton, Lady of Sally, en 1977. Et elle a sorti son premier album, Marcella, en 1982. Elle a rejoint les Shakespeare's Sisters en 1988. Et avec Sebian Faye, ancienne des Bananarama, ça doit évoquer quelque chose, elle a poursuivi en sortant notamment 2 albums, Sacred Heart et Hormonally Yours, à la fin des années 80, au début des années 90. Les 2 albums ont rentré dans le top 10 des classements britanniques, ce qui veut dire que c'était de bonne qualité. Marcy a connu son plus grand succès avec Stay, 8 semaines consécutivement des single charts britanniques en 1992. Marcy a quitté le groupe en 1993 et figuré dans le top 20 britannique avec I Believe en 1994. Elle a formé le groupe Marcy Levy Band en 2002 et continue de tourner. Écoutons Let It Grow, très belle chanson qui fut accusée de s'inspirer trop nettement de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ce qui me paraît encore aujourd'hui très exagéré. À vous de vous faire votre opinion.
Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow.
There's nothing left to show. Plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow.
Rest is up to you. Plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow.
C'était Let It Grow, Laisse-le grandir, par Eric Clapton pour OxyWeb Radio.
I'm a steady rolling man.
Les autres musiciens présents sur l'album sont notamment L.B. Gayledon, né en décembre 1947, qui est un producteur de disques, compositeur, musicien et chef d'orchestre. Il a de nombreuses créations et a produit 18 singles devenus tous numéro 1, avec des titres et des albums vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Il a remporté 2 Grammy Awards et de nombreux prix. Il a également fait équipe avec Barry Gibb et Carl Richardson sous le nom de Gibb Gayledon Richardson. Sur l'album, il joue du piano avec Eric Clapton. Il y a également James Holdaker, qui est né en septembre 1951 à Tulsa, Oklahoma, un compatriote de Carl Radell. C'est un batteur et percussionniste américain de musique rock, de blues rock ainsi que de country. Il est un représentant du style shuffle, faisant partie de différents groupes de son Oklahoma natal depuis 1965. Jamie Holdaker a rejoint Leon Russell et Carl Radell avant de travailler dès 1974 avec Eric Clapton pour l'enregistrement de 461 Ocean Boulevard. Holdaker est resté membre du studio et des groupes de tournée de Clapton jusqu'en 1979, puis revint en 1983 et de façon épisodique jusqu'en 1986. Jamie Holdaker a également enregistré avec des musiciens tels que les frères Bellamy, Peter Frampton, Stephen Stills, Leon Russell, S. Frehley de Kiss, Freddie King et The Bee Gees. Notez aussi Dick Sims, l'organiste, né également à Tulsa en 1951 et qui a rejoint Clapton comme ses deux compères. Et en fait, lui a continué par la suite avec Bob Seger. Il est décédé en 2011 d'une maladie. La chanson suivante, Steady Rolling Man, est une chanson de Robert Johnson, encore un blues, où Clapton le fusionne sans effort avec du rock et crée une autre reprise classique. Thank you. c'était Steady Rolling Man, ou l'homme qui roule sa bosse éternellement, d'Eric Clapton, pour OxyWeb Radio. Et l'album se termine par une perle signée George Terry, Mainline Florida, qui se démarque du ton établi sur le reste du disque. Cette chanson met en avant l'effet de la boîte vocale utilisée par Clapton lors de ses solos sur cette chanson. Cela termine l'album de façon fantastique, c'est mon avis. La chanson est basée sur un riff de guitare entraînant que vous venez d'entendre et que Clapton a adapté. Les couplets sont aussi entraînants avec un solo de guitare extrêmement original avant que le troisième et dernier couplet n'arrive. La chanson s'estompe ensuite après un autre solo arrosé de wah-wah et avec le fameux effet de boîte vocale qui va devenir populaire par la suite. L'auteur George Terry est né en 50, il a joué de la guitare et fourni des chœurs sur cet album. C'est un guitariste américain de blues rock et de rock'n'roll. Il a travaillé en studio et sur scène avec Eric Clapton dans les années 70, mais aussi avec d'autres artistes comme ABBA, au hasard, les Bee Gees, Joe Cocker, Andy Gibb, Freddie King, Diana Ross, Stephen Stills. Donc c'est très éclectique. Une partie de ce travail a été réalisée grâce à l'association de George Terry avec Barry Gibb, encore lui, toujours membre des Bee Gees. Avant de rejoindre le groupe de Clapton, George Terry était un guitariste et un musicien de session du sud de la Floride. Il avait joué avec plusieurs groupes, dont Game, qui avait publié deux albums en 70-71. Il a souvent travaillé dans les studios Criteria de Miami et c'est comme ça qu'il a été mis en contact avec Clapton. Il a écrit et participé à beaucoup de projets musicaux durant les années 70 et 80. Son seul défaut est de jouer de façon très convenue, sans risque, sans effet fantastique. Avec Clapton, il avait trouvé un peu d'originalité et de réussite pour la reconnaissance de son travail. Pour info, George Terry était notamment le co-auteur de la chanson parue en 1977, Lay Down Sally, dont on a déjà parlé. Très discret par la suite, George Terry a sorti un album solo en 2004 intitulé Guitar Drive. Écoutons sa chanson, Mainline Florida, magnifiée pour cet album fabuleux par un Clapton inspiré et assez flamboyant, d'après moi. C'était Mainline Florida par Eric Clapton pour OxyWeb Radio. Une édition remasterisée de luxe est apparue contenant deux CD. Il est paru donc en 2004, comprenant un concert live enregistré au Hammersmith Odeon et des sessions de jam en studio supplémentaires. La partie studio est un peu plus chamboulée avec la disparition de Better Make It Through Today, ce que je regrette, au profit de Gimme Strength, Donne-moi de la force, tant pour moi moins intéressante que la première. En effet, pour moi, 461 Ocean Boulevard est un album fantastique, surtout compte tenu des circonstances qui ont conduit à son enregistrement. Il est remarquable que Clapton soit revenu si fort après avoir été pris au piège de la drogue durant les trois années précédentes. L'album reste l'un des meilleurs de sa carrière, même s'il n'est probablement pas à la hauteur d'un Layla and Other Assorted Love Songs. Mais à bien des égards, c'est le successeur parfait de cet album. Et puis lui, il a été bien accueilli et bien apprécié tout de suite, en Amérique comme en Europe, ce qui a fait beaucoup plaisir à l'intéressé. 4 ans après la désintégration des Dominos, la mort de John Allman et la mise à l'écart dans sa maison de Surrey, Eric Clapton, devenu un vrai drogué paranoïde, ressuscite et nous prouve la préservation de son talent. Mais merci à Pete Townsend d'avoir su le sortir de sa retraite avec le concert du Rainbow et de George Harrison pour le maintien de son amitié malgré l'amour d'Eric pour Patty, la femme de George. La musique dépasse tout décidément. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre revenant, Bob Dylan et son album Live Before the Flood. Mais d'ici là, roulez blues.